J'en suis au chapitre 11 du livre des Nombres et il fait très vilain temps. Le peuple murmure encore une fois contre Dieu. En fait, c'est pratiquement un soulèvement et ça va mal finir. Je continue. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, « Porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres ?» Où trouverai-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger !» Versets 10 à 13. Chaque famille se lamente. L'heure est particulièrement grave. La révolte gronde. Un violent mécontentement se répand parmi tout le peuple et une révolution couve. Après la plainte du peuple, voici celle de Moïse qui est à bout de force. Il se sent écrasé par sa tâche, complètement découragé, car coincé en sandwich entre le peuple en révolte et l'Éternel en colère. Ça va très mal. Je continue. Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. Versets 14 à 15. La plainte de Moïse est amère. Il déclare son rôle de médiateur intolérable car il se trouve dans une situation impossible entre le marteau et l'enclume. Il se sent très seul, chargé d'une tâche écrasante. Dans son angoisse, il appelle la mort. Cette plainte était quelque peu justifiée, et c'est pourquoi l'Éternel ne blâme pas son serviteur pour la hardiesse de son langage. Dieu tient compte de la déprime de Moïse et va lui venir en aide. D'abord, en lui associant des aides, puis en intervenant directement par l'envoi de caille. Je continue. L'Éternel répondit à Moïse. « Rassemble-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple, et amène-les devant la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là avec toi. Alors, je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. » Versets 16 à 17. Dieu juge à propos de répondre à cette plainte de Moïse en lui donnant des aides de camp, afin de lui ôter le sentiment de son isolement. Il lui associe des conseillers qui partageront avec lui la responsabilité de conduire le peuple. Ces personnes ne sont pas les juges que Moïse institua sur le conseil de son beau-père et qui n'avaient à s'occuper que des affaires litigieuses. Il ne s'agit pas non plus des 70 anciens qui montèrent avec Moïse et Aaron sur le mont Sinaï, car leur rôle de représentant du peuple ne fut pas prolongé sans qu'on sache pourquoi. Les conseillers dont il est ici question devront porter avec Moïse, le fardeau du peuple, c'est-à-dire l'aider à le diriger et à pourvoir à ses besoins. Nous n'avons aucun détail sur la nature de leur mandat, ni sur la manière dont ils le remplirent. Les Juifs ont vu dans ce conseil d'anciens l'origine du Sanhédrin, ou grand conseil, celui qui condamna Jésus-Christ à mort. Cependant, celui-ci n'apparaît que longtemps après le retour de l'exil à Babylone, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ces responsables vont recevoir le même guide spirituel que Moïse. Mais il n'y aura pas de déperdition, car l'esprit ne s'affaiblit pas en se divisant. pas plus qu'une flamme de bougie ne diminue lorsqu'elle sert à en allumer d'autres, par exemple. L'autorité de Moïse ne sera pas non plus affectée puisque ses conseillers, étant animés par le même esprit que leur chef, agiront dans le même sens que lui. Je continue. Tu diras au peuple, purifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous étions si bien en Égypte. Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Pas un seul jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni même 20 jours, mais durant tout un mois, vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc avons-nous quitté l'Égypte ?» Versets 18 à 20. Cette promesse est en même temps une menace. Les Israélites recevront plus qu'ils n'ont demandé, et cela à tel point que l'abondance engendrera le dégoût, ce qui n'était évidemment pas le cas de la manne. Un des psaumes de l'Ancien Testament relate cette triste affaire de la façon suivante. Je lis. « Dans le désert, ils se sont livrés à la convoitise, ils ont voulu forcer la main à Dieu au milieu des solitudes. Il leur a donné ce qu'ils demandaient jusqu'à ce que le dégoût les saisisse. Mais il les a aussi frappés de fièvre. » Fin de citation. Je continue le texte. Moïse répondit, « Ce peuple dont je fais partie compte 600 000 hommes de pied, et toi, tu leur promets pour un mois entier de la viande à manger. Abattra-t-on pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient suffisamment? Et même si on leur pêchait tous les poissons de la mer, en aurait-il assez ?» L'Éternel lui répondit, « Le bras de l'Éternel sera-t-il trop court? Tu verras sans tarder si, oui ou non, ma parole se réalise devant toi. » Versets 21 à 23. Moïse a perdu les pédales et il est en chute libre. Ce brave serviteur a la mémoire qui défaille. Il me rappelle les disciples de Jésus. Leur maître avait nourri 5 000 hommes, plus leur famille, en faisant un miracle. Cependant, lorsqu'ils se sont trouvés dans la même situation une seconde fois, ils n'avaient aucun souvenir de la première multiplication des pains et se demandaient comment le Seigneur allait faire pour nourrir 4 000 hommes. Pareillement, Moïse semble avoir oublié que la toute-puissance divine s'était déjà manifestée dans un cas analogue. Le souvenir des signes miraculeux et des prodiges accomplis par l'Éternel lors de leur sortie d'Égypte et tout au long du voyage semble s'être estompé pour tout le monde. Alors Dieu lui demande si par hasard son bras se serait raccourci entre-temps. Son serviteur mérite ce reproche parce qu'il persiste dans son argumentation malgré l'assurance qu'il a reçue que l'Éternel pourvoir. Je continue. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes choisis parmi leurs responsables et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. Versets 24 à 25. La nuée se transporta de dessus le lieu très saint jusqu'au seuil du tabernacle où se trouvaient 68 des 70 anciens en compagnie de Moïse. Les conseillers reçoivent l'onction divine et se comportent comme s'ils étaient dans un état extatique, ce qui montre que l'Esprit de l'Éternel était maintenant sur eux. Je continue. L'Esprit vint également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad et Médad. l'Esprit vint reposer sur eux car ils figuraient parmi les inscrits bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente et, dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. » Alors Josué, fils de Noun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant « Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. » Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi ? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Puis Moïse regagna le camp avec les responsables d'Israël. Versets 26 à 30. Josué est un fidèle aide de camp de Moïse et estime à tort que la position de son maître est compromise, car il n'y avait pas l'ombre de la moindre jalousie dans son cœur. Il ne craignait pas d'empiétement sur ses droits. Il considère que l'Éternel est libre d'accorder ses dons comme il l'entend. Bien loin de vouloir limiter l'action de l'Esprit à quelques privilégiés, Moïse désirerait qu'elle s'étendît au peuple tout entier. Ce vœu s'est réalisé lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit vint demeurer dans tous les croyants. Je continue le texte. Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp sur un rayon d'une journée de marche. Elles recouvraient le sol jusqu'à un mètre de hauteur. Le peuple fut debout toute cette journée et toute la nuit et encore tout le lendemain pour ramasser les cailles. Personne n'en prit moins d'une tonne. Ils les étalèrent tout autour du camp. Versets 31 à 32. Il est vrai que chaque année, au printemps, des quantités d'oiseaux en rang épais et serré et sur une très grande distance voyagent au-dessus du désert. Un fait semblable s'était passé l'année précédente à la même époque. Mais alors, l'écaille ne jouait qu'un rôle secondaire à côté de la manne. C'était un surplus que l'Éternel accordait. Ici, le peuple demande de la viande parce qu'il est lassé de la manne. Ces cailles sont en si grande quantité qu'il y en a assez pour tout un mois. Finalement, elles deviennent une cause de jugement contre le peuple, ce qui n'était pas arrivé précédemment. La terre fut couverte à hauteur d'un mètre. Chaque famille avait donc à peu près un millier de cailles. Ce nombre paraît colossal, mais ce phénomène est bien présenté comme tout à fait extraordinaire et le texte dit qu'on les recueillit pendant 18 heures. L'idée n'était pas de les dévorer sur le champ, mais de les faire sécher au soleil comme le font les Orientaux pour les manger plus tard. Comme cela a déjà été dit, il y en avait suffisamment pour un mois. Je continue. Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple, et il le frappa d'une grave épidémie. On appela cet endroit « tombeau de la convoitise », car c'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. Versets 33 à 34. La présence invisible de Dieu et son intervention immédiate aurait dû remplir de crainte et de reconnaissance le cœur du peuple et lui inspirer de la retenue devant un don pareil. Ce fut sans doute le cas pour beaucoup, mais nombreux aussi furent ceux qui se précipitèrent avec une gloutonnerie animale sur l'objet de leur convoitise. Ceux-là payèrent leur avidité par un châtiment immédiat. Quant aux autres, ils purent conserver quelque temps encore la provision amassée et s'en nourrir jusqu'à ce qu'ils en fussent dégoûtés. Voilà comment un autre psaume que celui cité précédemment décrit cet événement. Je le cite. « Il fit souffler le vent d'est dans les cieux, Il força le vent du sud à souffler. Il fit pleuvoir de la viande sur eux aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux aussi nombreux que le sable des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressaient leurs tentes. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient, mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche que la colère de Dieu éclata. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Fin de citation. Suite à ce triste épisode, et après avoir enterré leur mort, le peuple se mit en marche pour Hatzeroth, où il s'installa, nous dit le texte. Nous voici arrivés au chapitre 12, où il va encore s'agir d'une rébellion, mais de la part des frères et sœurs de Moïse cette fois-ci. Décidément, ça va de mal en pis. Je commence à lire. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Verset 1. Il est probable que Séphora, la première épouse de Moïse, était décédée. Il s'était donc remarié à une femme de la race couchite dont l'Arabie était en grande partie peuplée. La loi n'interdisait que les mariages avec les Cananéennes. La fière israélite, Myriam, méprisait cette étrangère à la peau basanée. Le reproche qu'elle adressait à Moïse n'était en réalité qu'un prétexte. En fait, elle lui cherchait des poux parce qu'elle éprouvait de la jalousie à son égard, tout comme Aaron d'ailleurs. Ils avaient du mal à encaisser la supériorité de leur frère cadet. Bien plus tard, Jésus sera également rejeté par ses frères et sœurs pour la même raison, par jalousie. En attendant, Moïse n'avait pas besoin de cette nouvelle contrariété. Il est déjà accablé par les soucis que lui cause le peuple et maintenant, au lieu de trouver un soutien affectif auprès des membres de sa famille, voilà qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues. Je continue. Et ils dirent, « Est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire ?» Verset 2. Il est vrai que Marie, Myriam, était prophétesse et Aaron, en tant que grand prêtre, détenait l'Ourim et le Toumim, deux objets dont on ne connaît pas grand-chose, sinon qu'il permettait de connaître la volonté de Dieu. Cependant, il y avait un monde d'écart entre eux et Moïse, ce qu'ils vont rapidement découvrir à leurs dépens. Je continue. L'Éternel entendit cela. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Verset 3. L'incident précédent dans lequel Josué, l'aide de camp, avait rapporté que deux personnes sans autorisation officielle prophétisaient, avait déjà mis en évidence l'humilité et la grandeur d'âme de Moïse. Dès qu'il s'agissait de défendre sa propre cause et sa position personnelle, il ne se sentait pas concerné. Il ne demandait rien à quiconque. L'Éternel l'avait choisi contre son gré, pour libérer puis diriger ce peuple. Lui, il aurait tout autant aimé une petite vie tranquille à garder les troupeaux. S'il était doux et humble de cœur, il était par contre impétueux quand il s'agissait de défendre la gloire et l'honneur de Dieu. Cette remarque, comme quoi il était un homme très humble, placé après les mots « L'Éternel entendit cela », explique pourquoi Dieu va intervenir sur le champ et sans même que son serviteur se soit plaint à lui. Je continue. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. » ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Il dit, « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment, donc, avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? Versets 4 à 8. L'Éternel, dans la nuée, quitte le lieu très saint et se rend devant le seuil du tabernacle où il convoque les plaignants. Il est fâché et va juger lui-même. Il explique tout d'abord qu'un prophète ordinaire a une mission particulière et momentanée. C'est en songe ou en extase qu'il reçoit une vision sous forme de tableaux énigmatiques au moyen desquels lui est manifestée plus ou moins obscurément la pensée divine. Moïse est différent. Il est l'administrateur de tout le peuple de Dieu et jouit d'une intimité exceptionnelle avec l'Éternel. À cette position unique correspond un mode de communication extraordinaire, à la fois plus distinct, plus familier, plus constant, plus libre que celui du simple prophète. Moïse peut aller à Dieu quand il veut, à toute heure de la journée ou de la nuit, chaque fois qu'il a quelque chose à lui demander. Tous deux s'engagent alors dans une conversation de vive voix. Personne n'a jamais joué d'une telle liberté d'approcher Dieu comme Moïse, l'homme de confiance de l'Éternel. En cela, il est une figure et l'annonciateur du prophète par excellence, Jésus-Christ. Et avec ces paroles, je termine pour aujourd'hui.